ערב טוב, ברשותכם, נתחיל בוקור על הפמיה לוי, תלביס, pour cet accueil et pour les shiurim, et merci à vous de venir écouter, même si c'est pas facile comme ça de prendre une soirée de temps en temps. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'Ag BaOmer. Et d'une manière générale, de ce que représente en fait Rabbi Shimon Bar Yochai en tant qu'être humain et quel est le message qu'il porte en lui, c'est-à-dire quelle est la Torah qu'il est venu révéler dans le monde. Nous avons une règle, tous les exils que l'histoire du peuple d'Israël a connu sont porteurs d'un message. L'exil d'Égypte contenait en lui la Torah. Oubliez l'histoire que vous connaissez, celui qui était réellement exilé dans cette prison égyptienne, c'était la Torah. Lorsque des êtres humains sont sortis d'Égypte, ils ont en réalité libéré la Torah. C'était la Torah qui était emprisonnée. Bon, la Torah, c'est en réalité une vie. Ce n'est pas des bouts de papier, ce n'est pas des parchemins. On confond aujourd'hui la Torah avec le livre que vous avez dans l'armoire de la synagogue. Ça, c'est recopier la vie sur un parchemin. Mais la véritable Torah s'inscrit dans la vie, elle ne s'inscrit pas sur des parchemins, ni sur des bouquins. Les livres, ce sont des ramasses poussières. La véritable Torah, c'est une Torah de vie. Et aujourd'hui, malheureusement, étudier la Torah, c'est tout simplement ouvrir un livre. Alors que la véritable étude, c'est la vie. C'est savoir vivre la Torah, la manger, la consommer, la digérer. Donc la Torah était en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'elle n'était pas dévoilée. Parce qu'il n'y avait pas le porteur de cette Torah, celui qui est capable de la véhiculer par le Verbe et par la vie. En l'occurrence, le peuple d'Israël. Donc lorsque le peuple d'Israël n'est pas encore dévoilé dans le monde, la Torah qui est divine, donc Dieu lui-même sous forme d'un message, car Torah veut dire lumière, bien la lumière divine est enfermée dans une prison, ce qu'on appelle l'Égypte. Donc sortir d'Égypte, c'est libérer en fait la parole divine qui était enfermée. Qui est le porteur de ce message? Israël. Donc Israël, c'est le Verbe de Dieu. Ça, c'est l'exil d'Égypte. C'est pas étonnant que 50 jours après la sortie d'Égypte, on reçoit la Torah que nous-mêmes nous avons libérée. C'est pas que après 50 jours de la sortie d'Égypte, depuis la sortie d'Égypte, il y a une Torah qui nous tombe du ciel. La Torah ne tombe pas du ciel. Elle a été libérée 50 jours plus tard, on la nettoie un petit peu, et on la donne au peuple d'Israël comme message qui lui est destiné pour faire vivre le monde selon les critères de Dieu. Deuxième exil, l'exil de Babylone. La même chose, dans cet exil, il y avait des hommes et des femmes, des juifs, ça c'est le côté historique. Mais ce qui était réellement en prison, c'était la Torah orale. De la même manière que la Torah écrite était emprisonnée en Égypte, la Torah orale, le Talmud, de Babylone, on l'appelle comme ça, était emprisonné dans cet exil babylonien. Donc la sortie de l'exil de Babylone, c'est en réalité la libération de la Torah orale, de la Gemara. Donc en sortant de Babylonie, de Babylone, on a sauvé, on a libéré la Torah du Talmud. Et donc nous avons le Talmud face à nous, comme nous avons la Torah écrite face à nous. Ça, c'est le deuxième exil. L'exil dans lequel nous sommes aujourd'hui, le dernier exil de l'histoire, c'est, encore une fois, pas l'exil d'êtres humains seulement, des Juifs, des enfants d'Israël, mais c'est l'exil d'une autre forme de Torah. Et cette fois-ci, c'est la Torah des secrets. C'est-à-dire que la dernière phase de tous ces exils, c'est la libération des secrets de la Torah. Donc, je répète, de même que nous avons libéré à la sortie d'Égypte la Torah écrite, de la même façon que nous avons libéré de Babylone la Torah orale, nous libérons aujourd'hui du dernier exil par votre retour sur la terre d'Israël. Vous sortez de vos Égyptes différents. L'un vient de Belgique, l'autre vient d'Espagne, l'autre vient du Portugal, l'autre vient des États-Unis, celui-là vient de la France. Bien, vous libérez en réalité la Torah des secrets. Donc cette Torah des secrets, ne vous étonnez pas qu'elle devient de plus en plus au bout du jour. De la même manière que 50 jours après la sortie d'Égypte, on a eu la Torah face à nous, de la même manière qu'en sortant de Babylone, nous avions la Torah orale face à nous, eh bien aujourd'hui, vous allez avoir de plus en plus de Zohar face à vous. C'est-à-dire, vous n'allez plus entendre des cours où il n'y a pas de Kabbalah, caché ou dévoilé, peu importe. Donc tous les cours que vous allez entendre de plus en plus, et dans les années qui viennent, vont être emprunts, remplis de secrets. Qu'est-ce que c'est que cette Torah des secrets ? Alors le secret n'existe pas, le secret est momentané. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le secret est nécessaire à un moment donné, mais au moment où on a besoin de dévoiler ce secret, il ne peut plus rester dans son secret. Un homme et une femme qui ne sont pas encore à même de se marier, je n'ai pas besoin de leur donner des cours sur les relations intimes, mais au moment où ils vont se marier, si je ne leur dévoile pas ce sujet, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Mais c'est la même chose. Nous sommes dans une période où la Torah qui correspond à cette période, c'est la Torah justement que nous sommes en train de libérer par nos retours d'exil. Et ces différents retours d'exil sont des prélèvements, étincelles, qui prennent la forme humaine que nous avons tous, et qui en réalité, chacun de nous est porteur de certaines étincelles que l'autre n'a pas. Et la réunification de toutes ces étincelles donne en réalité les retrouvailles de quelque chose de cohérent qu'on appelle la Torah des secrets. Le mot secret en français ne veut rien dire. Car le mot sod en hébreu ne veut pas dire secret. Encore une fois, le secret est secret hier, mais aujourd'hui il doit être dévoilé. Ou ce qui est secret aujourd'hui, demain devra être dévoilé. Donc le secret est momentané. Mais que veut dire le terme sod que nous avons l'habitude de traduire comme secret ? Le mot sod en hébreu veut dire entité. Et ça change tout. Ça veut dire que ce n'est plus une Torah fractale, mais une Torah de l'unité. Une Torah de l'un. Alors que jusqu'à maintenant, toutes les différentes parties de la Torah que nous avons libérées étaient des parcelles. La Torah que nous libérons aujourd'hui par le retour du dernier exil, c'est en réalité la Torah de la cohésion et de l'unité. Je veux dire par là que c'est une Torah qui va faire le lien entre des causes et des effets, que quiconque n'étudie pas cette Torah, ne s'affaire pas à approfondir cette Torah, mais il a du mal à faire le lien entre les choses, d'une manière générale dans sa vie, pas seulement au niveau de la Torah. C'est-à-dire que cette étude est tellement profonde qu'elle transforme son lecteur. Quand j'étudie la géométrie, je ne deviens pas un client. Quand j'étudie la Kabbalah, je deviens métabèle. C'est-à-dire j'ai un sens de la perception, les tabelles, de la réception qui change, qui se développe. Je peux commencer à recevoir des choses. Avant j'étais imperméable, maintenant je deviens de plus en plus perméable. Et donc cette étude est tellement forte et tellement profonde qu'elle transforme l'être qui l'étudie. Et pourquoi cela ? Tout simplement parce qu'elle provient de la source même de la vie. Autrement dit, quand j'étudie cette étude, précisément, eh bien j'étudie en fait la vie. La vie me traverse. Je deviens donc plus vivant après cette étude que je ne l'étais avant. Et donc, plus je rentre dans cette étude me pénètre, plus elle me traverse, plus en réalité, je vis avec une intensité de vie beaucoup plus grande que quelqu'un de basique. Et plus je suis vivant, plus je deviens, entre guillemets, divin dans ce monde, sans devenir Dieu. Car il y a autant de degrés de vie que de gens qui sont assis dans cette pièce. Et beaucoup plus. Et aucun d'entre vous ne vit avec la même intensité. Si on prend une échelle de 100, il y en a qui vivent à 10, il y en a qui vivent à 30, il y en a qui vivent à 80 sur ces 100. Ça veut dire que celui, admettons, qui vit à 80%, eh bien, il y a 20% de mort. Comprenez? Car il ne vit pas les 100% de sa capacité initiale. Donc, si vous vivez à 50% de votre vie, vous avez 50% de mort pendant votre vie. Et, en plus de tout ce que je viens de dire, ça change tout le temps. Alors, au moment où tu te sens bien, tu peux atteindre les 70, 80. Au moment où tu te sens mal, tu es à 0, 20, 10, 15. Moralité, nous sommes dans une relation entre la vie et la mort tout en étant vivants. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose de plus important. C'est que même après la mort, il y a différents degrés de mort. C'est-à-dire pas tous les morts vivent leur mort de la même façon. Il y a des morts qui vivent, et il y a des morts qui meurent. Pour vous, c'est la même chose. Ils sont tous dans des cimetières, vous ne comprenez pas. Mais ce n'est pas comme ça. Les Chachamim nous disent qu'un homme qui a été traversé durant sa vie par la vie, même après sa mort, il est traversé par une autre forme de vie. Il a juste perdu l'enveloppe charnelle. Seulement, nous, on ne le voit pas. Être traversé par la vie, c'est-à-dire par Dieu, par l'éternité. Car on ne monte pas vers Dieu, on lui permet de nous traverser. Et plus tu permets à l'éternel de te traverser, moins tu prends de place, plus il te traverse. Plus toi-même tu es un obstacle à sa lumière, eh bien, plus tu fais de l'ombre. Donc, il ne peut pas te traverser, entre guillemets. Car il te laisse le libre arbitre de te laisser traverser ou bien d'être toi-même un obstacle à ta lumière. Donc, ça change complètement entre chacun de nous. Et ça change au moment différent de nos vies. Il y a des moments où nous sommes imperméables parce que nous sommes bouchés, en hébreu tamé, que vous traduisez impur. Mais en réalité, l'impureté, tamé, c'est les mêmes lettres en hébreu que le mot atoum, imperméable. Donc il ne laisse pas la lumière passer. Donc quelqu'un qui est tellement imperméable, il ne ressent plus rien. Ça lui glisse dessus. Alors que quelqu'un qui est perméable, eh bien l'eau, les valeurs divines le traversent, le remplissent. Donc il vit du divin. Et donc c'est pour ça que le nom de Dieu, c'est l'être, l'apostrophe. Havaya. Shem, Havaya, le nom de l'être, le nom de l'existence. C'est-à-dire en hébreu, Ani Hove, je suis, au présent, je suis Hove, mais Havayato, de son être. Donc je suis de son être. Vous comprenez? Je vis de sa vie, car il me traverse. Anachnu Hove, mais Havayato. Im Ani Hove, si je suis celui qui me laisse traverser, je deviens moi-même un porteur, un générateur de lumière. Donc quiconque me croit s'imprègne de ma lumière. Il a l'impression qu'il est bien dans ma présence, avec moi. J'aime bien quand il est là, je me sens rassuré. Et même si tu as certaines questions, tu risques de les oublier en sa présence. Pourquoi? Parce que sa présence est tellement lumineuse qu'elle masque tes manques. Et donc, quand tu es à côté de lui, tu te dis, mince, je voulais te poser une question, mais je ne me rappelle plus. Pourquoi? Parce que tu n'as plus à ce moment-là même les manques que tu avais avant que cet homme ou que cette femme n'apparaisse et soit à côté de toi. Tu te sens tellement rempli que les manques te manquent. Et c'est d'ailleurs la valeur du Shabbat. Shabbat nous guide les sages, on n'a pas le droit de demander ses besoins. Pourquoi ? Si tu demandes des besoins Shabbat à Dieu, ça veut dire que tu sens le manque. Or, Shabbat, c'est un jour où tu ne devrais pas sentir le manque. Donc, si tu sens le manque, c'est que tu ne vis pas ton Shabbat au plein régime. Vous comprenez donc que la vie et la mort, ce n'est pas ce que vous croyez. Il y a différentes intensités dans tous ces degrés. Et si je vous disais que dans cette pièce, il y a maintenant énormément de formes humaines sans corps, vous allez commencer à regarder à droite à gauche. Mais c'est la réalité. Cette fameuse Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est la Torah des secrets, que j'ai traduit volontairement par la Torah du tout, eh bien, elle prend en compte pas seulement ce que vous voyez, mais aussi ce que vous ne voyez pas. Autrement dit, qui vient s'asseoir à un cours comme je suis en train de donner maintenant, nous disent les sages, quelqu'un qui n'a pas eu la chance durant sa vie, de vivant, l'occasion d'écouter ce cours. Alors il y a un appel dans un monde parallèle, oyez, oyez, il y a un cours chez monsieur et madame Lévy à 20h30, lundi soir, sur le sujet de l'Alpha Omer. Tous ceux qui n'ont pas écouté de leur vivant un cours sur l'Alpha Omer sont priés de descendre sur terre. Donc ne croyez pas que vous êtes seulement ce qu'on voit ici. Et donc toutes les âmes en question sans corps viennent, écoutent le cours, terminent le cours et repartent. On appelle en hébreu Ishtalmut, c'est-à-dire elles ont fait un... Comment on dit en français ? Un complément de connaissance. Et lorsqu'elles repartent là où elles étaient au départ, elles montent d'un degré, c'est-à-dire elles sont moins mortes que les autres. Car même chez les morts, il y a des différents degrés de vie. Et c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, nous ouvrons les livres et des vivants, et il y a aussi des livres qui sont ceux des morts. Sifrei Chaim, Sifrei Metim. Pas comme vous avez l'habitude de traduire le livre de la mort et le livre de la vie. Non, le livre des vivants et le livre des morts. Car on ouvre aussi le livre des morts pour savoir où le mort en question sera cette année. Selon si ses enfants font quelque chose, ou pas. Mon papa qui se trouve là-bas, dans cette porte parallèle, eh bien, au moment où j'enseigne la Torah, il peut aller dire, regardez, mon fils donne un cours, je peux monter de niveau. On lui dit, effectivement, tu peux monter, on va écouter ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'il avait dit. Et c'est comme ça que ça marche. Ça veut dire qu'il y a en réalité un mouvement perpétuel de toute la vie, de la même manière que vous changez dans la journée sans cesse. Et vous pouvez, dans une journée, être mort et vivant 20 fois, 1000 fois. Chaque petit bout d'angoisse, mort. Chaque petite joie, vie. Et vous savez comment on est. La case branchée, vous voyez chez le médecin, toute la journée. C'est-à-dire on est très très instable, alors que les morts sont... stable. Carné. La chair. Réincarner. C'est-à-dire revenir dans une chair. Tout simplement, c'est la Neshama qui doit compléter, car ça ne suffit pas de venir à un petit coup. Il y a trop de manque. Donc on la voit dans un petit bébé qui vient de naître. Et donc elle va recommencer sa vie pour être complétée en priant. En espérant que cette fois-ci, elle n'oublie pas autant de choses qu'elle a oubliées dans sa réincarnation précédente. Il y a fait très bonne question. En ben David va à Chiflou Kolan Shamo Shebagouf. Il y a ce qu'on appelle un panier où on envoie ses âmes et elles font un travail, elles se complètent. Et au moment où ce panier se vide et qu'il n'y a plus de choses à compléter, on va envoyer de nouvelles formes humaines. Les kabbalistes nous disent, en l'occurrence, que ces nouvelles formes humaines ont commencé à descendre sur Terre à partir de la guerre des six jours. C'est-à-dire qu'à partir de la guerre des six jours, quiconque est né après cette guerre a la chance d'être une nouvelle âme qui n'est jamais venue plusieurs fois. La plupart d'entre nous en est venu 200-300 fois. C'est-à-dire que chaque fois on vient compléter quelque chose. D'accord ? C'est-à-dire que nous sommes des âmes très vieilles dans des corps sans cesse renouvelés. Mais ce n'est pas toujours tout qui revient. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans la session de juin, tu as raté juste les maths, tu as eu kilo, une bonne note. En maths, tu n'as pas une bonne note. C'est-à-dire en septembre, on te fait repasser que les maths. Moralité, sur une âme, il y a eu peut-être 200 ou 300 personnes. Vous comprenez ? Car à chaque fois que une parcelle d'âme est revenue, elle avait un nouveau corps, et un nouveau corps, et un nouveau corps. Moralité, au moment de la résurrection des morts, eh bien, tous les 300 corps qui ont servi pour une âme vont se reconnaître. Ah, salut, toi c'est Astini Philo, moi j'étais pour les maths du même programme. Et nous allons savoir qui est de notre Shoresh racine d'âme. Ça, c'est la Torah de la Kabbalah. La Torah de la Kabbalah nous dit, et c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il y a en réalité dans ce monde énormément de choses que vous ne voyez pas, que votre cerveau n'a pas la qualité développée. Il a la qualité nécessaire, mais vous ne l'avez pas développée, vous l'avez atrophiée par 2000 ans de maladie d'exil. Nous avons atrophié nos qualités intrinsèques de prophétie, par exemple. Nous sommes prophètes. C'est-à-dire, de la même manière que tu as reçu le don de la vision, tu as reçu aussi le don de prophétie. Pourquoi ça ne marche pas ? Mais parce que tu n'as pas utilisé ta prophétie pendant 2000 ans, comme un muscle qui a perdu ses qualités, ses capacités. Donc il doit faire de la rééducation. Eh bien, on doit refaire de la rééducation pour redevenir les prophètes que nous sommes. Donc, nous sommes le cercle des poètes disparus. Hein? En réalité, c'est nous qui devons être le porteur de cette lumière. Alors, en plus de ce que je viens de vous dire, il y a des différents au niveau des temps. C'est-à-dire que chaque temps diffère et nous donne des possibilités que l'autre temps n'avait pas. Nous sommes maintenant dans le mois de Iyar. Le mois de Iyar est porteur d'un message divin que le mois de Nissan n'a pas, et que le mois prochain n'aura pas. C'est un mois précis. Imaginez-vous à la place de Iyar que c'est un homme ou une femme qui a des qualités que sa voisine n'a pas, ou que son voisin de l'autre côté n'a pas non plus. C'est lui. Eh bien, le temps, c'est la même chose, c'est une entité vivante. Et elle a reçu par Dieu, au moment de la création, des qualités qui lui sont propres. Donc, le mois de Ia, comment est-ce que je vais connaître les qualités du mois ? Je dois étudier donc le temps. C'est difficile d'étudier le temps. Les enfants, ce que le temps passe, qu'est-ce que c'est que le temps ? Il est objectif ou subjectif ? Eh bien, il est les deux. Il y a un temps objectif, celui du temps qui passe, qui ne dépend pas de moi, qui est dans le cosmos, par la différence des astres et leurs mouvements. C'est comme ça que je gère le temps, que je calcule le temps. Et il y a un temps subjectif, c'est-à-dire celui qui est propre à moi-même. Lorsque j'ai un plaisir à faire quelque chose, le temps passe vite. Lorsque je souffre de faire quelque chose, le temps passe très doucement. Rappelez-vous quand vous regardiez la montre dans un examen où vous ne savez rien. Bien, vous attendiez juste qu'on vous libère, que ça sonne. Et ça passera. Tu regardes la montre et il s'est passé 3 secondes, il n'y a rien qui bouge. 1 seconde, 1 minute. Alors que quand tu commences à avoir un plaisir, tu te lèves, tu dis « Ah, oh, c'est déjà fini, mince !» On n'a rien eu le temps de faire. ça, c'est le temps subjectif. Alors, regardez Bergson et regardez d'autres philosophes avant lui qui ont parlé en réalité de tout ce système-là. Je ne vais pas rentrer maintenant, ce n'est pas un cours de philo. Toujours est-il que le mois de Iyar, pour nous, les enfants d'Israël, eh bien, on peut le mesurer grâce à la permutation du nom de Dieu qui apparaît dans le mois. Voilà le secret du judaïsme. Vous savez que le nom de Dieu qui porte quatre lettres, le Yud, le He, le Vav et le He, le Tétragramme, eh bien, il a 24 possibilités de permuter les lettres. Car 4 lettres, ce qu'on appelle en mathématiques factoriel 4. Donc 4 fois 3, fois 2, fois 1. Donc 4 fois 3, 12, 12 fois 2, 24, 24 fois 1, 24. Or, dans le nom de Dieu, il y a deux fois la même lettre. La lettre V. Donc je suis obligé de diviser 24 par 2, ça me fait 12 permutations possibles. Qui correspondent, comme par hasard, aux 12 mois de l'année. Donc nous avons en réalité 12 manières d'écrire le même nom de Dieu aux 12 mois différents de l'année. Et le Ari HaKadosh nous dit que quiconque ne sait pas le nom de Dieu qui apparaît dans le mois en question, eh bien il a en réalité perdu déjà au moins 30 à 40% de la qualité de vie dont j'ai parlé tout à l'heure ce soir. D'accord ? Vous comprenez maintenant ce que ça veut dire ? Et donc, les sages sont en train de nous dire, étudie le temps, et étudie les permutations du nom de Dieu, car le nom de Dieu, c'est pas Dieu, c'est son nom. Que veut dire le nom de Dieu ? Eh bien, c'est sa manière de s'exprimer, car son nom, c'est pour les autres. Moi, je ne m'appelle jamais. On m'appelle. Je n'ai pas l'habitude de me mettre en face de la glace et de me dire « Yoël, alors comment tu vas ?» Je suis un peu fatigué. Ça, c'est pour les pieds nord. Fatigué, ça veut dire malade. Très fatigué, c'est qu'il est mourant. Il n'y a pas de malade. Eh bien, c'est la même chose. Dieu, son nom, ce n'est pas pour lui. C'est pour nous. C'est l'accès de l'infini au fini. Ça passe par le nom. Car en hébreu, le mot « Shem » indique une direction, Sham. Ce sont les mêmes lettres. Donc quand je donne un nom, c'est que je donne en fait une manière d'être. Donc mon nom indique mes actions. Donc le nom de l'infini, lorsqu'il se combine dans cette combinaison du moi en question, eh bien il m'indique les qualités du moi. Alors je vous ai assez tendu. Quelles sont les permutations de tous les mois? On ne va pas le faire maintenant, mais on va vous dire juste le nom tel qu'il apparaît le mois de Iyar dans lequel nous sommes. Alors le mois de Iyar, au lieu de Yud, après He, après Vav, après He, ce que vous voyez dans vos livres, eh bien c'est Yud, He, He, Vav. Et il y a le Yud au milieu, au début, ce sont les mêmes lettres, hein, on ne change pas de lettres, juste on permute. Yud au début, deux fois Ré, et à la fin il y a un Vav. D'où ça sort toutes ces combinaisons? Il y a ça sort d'un verset. Le verset nous dit, et je prends les initiales, Yithalel pourra louer, Hamithalel, le loueur, Haskel, Veyadoa. Écoutez bien, Yithalel Yud, Hamithalel He, Haskel He, au début, Veyadoa, Vav. Traduction, bidon, car traduction égale trahison, mais je ne peux rien. Qui peut louer Dieu? Le loueur.
Pourquoi c'est
le Jérémie. Yithalel Amithalel. Jérémie nous dit, le prophète, qu'est-ce que ça veut dire? Va louer celui qui louera. Pas louer, hein? Louer, louange. Et même ça, c'est faux. Tout à l'heure, je vais vous expliquer. Qui pourra louer? Haskel Veyadoa, celui qui a du Sehel et du Da'at Veyadoa. Autrement dit, le mois de Iyar, il y aura deux fois Ithalel Amithalel. Deux fois le Halel. Incroyable. Les sages nous disent par avant, Akadosh Baruch Hu nous dit, un jour dans l'histoire, le mois de Iyar aura deux fois le Halel. C'est écrit dans le verset. Il fallait la Mithalel. Par Rosh Chodesh, c'est un Halel court. Je parle de Yom HaAtzmaout et Yom Yerushalayim. Deux fois le Halel complet avec bénédiction, s'il vous plaît. Sans avoir peur. Les gens me disent, oh, je sais pas, on m'a dit, machin. Je dis, écoute, quand tu veux dire merci à quelqu'un, tu lui dis pas, je te dis merci, mais je sais pas trop. On m'a dit de te dire merci, mais je ressens pas trop. Ou tu te tais, ou tu dis merci complètement. Faut arrêter de faire des grimaces avec la terre de Jorou. Ou j'ai conscience que tu participes à mon histoire, et je te dis merci de bon cœur en chantant, ou bien je me tais. Mais pour dire le Hallel, nous dit le texte, Haskel Veyadoa, il faut être parmi ceux qui ont un Sechel et du Da, c'est-à-dire la connexion des choses de l'histoire. Autrement dit, si tu n'as pas la sphère de Da, qu'est-ce que c'est Da en hébreu? La connaissance, mais dans le sens biblique du terme, c'est-à-dire la capacité à s'unir à l'autre pour engendrer quelque chose de nouveau. Et là, en l'occurrence, c'est s'unir à qui? À l'éternel. Comment je m'unis à l'éternel? C'est-à-dire notre union intime doit engendrer chez moi des bébés sous forme de nouveautés intellectuelles qui vont sortir de mon être. Donc, quiconque s'unit à l'éternel a des nouveautés intellectuelles, il peut écrire sans cesse. Sans cesse. Il y a toujours quelque chose, il y a des nouveautés qui arrivent, il y a des nouveautés. D'où ça sort? C'est un accouchement d'une maman spirituelle qui, à la force de l'union, elle est tombée enceinte. Or, dans un monde de l'esprit, le temps n'existe pas, donc il ne faut pas 9 mois de gestation, c'est immédiat. Donc tu as toute nuit entre... Ça coule. Le mois donc de Iyar a une force en lui, depuis la création du monde, qui confie en lui la possibilité de prendre une force de source et d'en faire quelque chose au niveau du résultat. Alors regardez bien. Les lettres du mois de Iyar sont 4. Aleph, Yud, Yud, Resh. Donc vous avez dans le mois de Iyar tout ce qu'il y aura en réalité codé dans ce mois. Donc Aleph, Yud, Eretz Israël. Yom Yerushalayim. Donc dans le mois de Iyar, vous avez Eretz Israël et Yom Yerushalayim. Et Yerushalayim. Vous avez déjà les deux fêtes incluses dans le nom. Or les sages nous disent que le mois de Iyar représente en fait les trois patriarches. Abraham, Aleph, Yitzhak Yud, qui est en train de réécrire Iyar, hein. Yaakov, encore un Yud, et Rachel, Resh, Iyar. Qu'est-ce que c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel? Dans la Kabbalah, ce sont des lumières supérieures qui ont trouvé un ustensile de réception. Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est Chokma, Bina et Da'at, et Rachel, c'est la Malkout, c'est la royauté. Ça veut dire que le mois de Iyar a la capacité en lui de prendre des choses très élevées et de dévoiler ce degré élevé dans un monde, dans un royaume d'Israël, etc. Vous voyez la capacité? Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque nous sommes venus parler de la Gvaomer, il a choisi de quitter ce monde, c'est lui qui a choisi. Ce mois, en question. Pourquoi? Il s'est dit, moi je veux, à Kadosh Baruch Hu, j'ai choisi le mois de Iyar pour partir. Parce que le jour où un sadique part, c'est le jour où toute la Torah de sa vie se révèle le même jour de sa disparition. Autrement dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, l'énorme Torah qu'il avait, l'énormité de cet homme, à tel point que nous chantons que lorsque Dieu dit « faisons l'homme à notre image », il parlait de lui. C'est le modèle de Dieu. Quand Dieu veut créer un modèle humain, qu'est-ce qu'il regarde? Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit « je veux un comme ça ». Magnifique. Donc le modèle divin de la création humaine, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ce même Rabbi Shimon Bar Yochai, toute la Torah qu'il a eue durant toute sa vie, se réunifie dans le mois de Iyar et va se dévoiler dans le monde le jour de sa disparition. Pourquoi ? Ben, au moment où l'homme quitte ce monde, c'est son enveloppe corporelle, superficielle qui s'en va, donc toute son énergie se dévoile. Donc le jour de la Hiloula, de la Haskara de quelqu'un, d'un être qui a disparu, c'est le jour où il a laissé le plus de lumière dans ce monde, de tout ce qu'il était. Donc si vous savez utiliser cette lumière, vous faites ce jour-là un repas, qu'on appelle une Haskara, pour rappeler sa mémoire et gagner toutes les qualités qu'il a laissées aux vivants. Rabbi Shimon Bar Yochai nous a laissé une Torah énorme. C'est la Torah de la prophétie. C'est-à-dire que lorsque les prophètes d'Israël ont arrêté de prophétiser, se sont mis à la place des prophètes, les nouveaux prophètes, les néo-prophètes, on les appelle les kabbalistes. Donc les kabbalistes d'aujourd'hui et de tous les temps, ce sont en réalité les nouveaux prochains prophètes, ou bien les anciens prophètes, comme vous voulez. Pardon. Donc la Kabbalah, en réalité, c'est la prophétie en boîte. Jusqu'au moment où la prophétie va sortir, elle va pouvoir dévoiler le lien entre les degrés. Le prophète que vous connaissez tous, c'est Eliyahu. Eliyahu Hanavi, d'accord ? Qu'est-ce qu'il dit Eliyahu Hanavi ? Ve'eshiv lev avot al banim. Ve'lev banim al avotam. Il va faire le lien entre papa et son fils. Et entre fils et papa. Tu as besoin d'Eliyahu Hanavi pour faire le lien ? Oui. Parce que faire le lien entre fils et papa, c'est pas ça c'est mon papa et je suis son fils. C'est cause et effet. Mais pas seulement au niveau papa et fils. Au niveau de tout ce que je fais dans la vie. C'est-à-dire que quand je prends un verre d'eau, avant de le boire, ça c'est le fils. Je dois connaître son père. Si je ne connais pas le père, le papa de l'eau qui se trouve ici, je n'ai pas le droit de la consommer. C'est comme si je prenais le fils en oubliant le père. C'est pour ça que quand je prends un bout de pomme, la pomme que je prends, c'est le fruit, c'est le fils. Mais il avait un papa, donc je dis, boré, pris, fruit, et je rappelle l'arbre de laquelle cette pomme est venue. Donc je fais le lien automatique entre le résultat et la source. Et là, je peux consommer. C'est-à-dire que Dieu nous éduque à ne jamais oublier les sources desquelles nous venons et la direction vers laquelle nous allons. Et si tu ne sais pas faire ce lien, eh bien, excusez-moi, mais c'est l'Agmara, quiconque mange et boit sans bénédiction s'appelle voleur. Car il déconnecte, en fait, la source du résultat. Il ne prend que des résultats et il se dit, moi, je ne connais pas son père, j'en ai rien à faire, moi. Je prends. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne lit pas, en fait, les textes, il ne prend que la dernière ligne. Le résultat final, c'est tout ce qui m'intéresse. Je ne comprends pas, moi, tout le reste. Laissez-moi tranquille. Ça, ce n'est pas une vie juive. La vie juive, c'est le respect de la racine de laquelle je suis issu pour me donner à moi aussi une stabilité dans mon présent et un avenir avec mes enfants. C'est pour ça que le mot « Eben » c'est « Av Eben ».« Av Ben »« Alef Ben »« Nun » »« Av » Ben Nechet. Le mot Eben, c'est le papa, le fils et le neveu. Le petit-fils. Pardon. Ou bien la même chose pour la maman. Em, Alef, c'est la même lettre. Bat, Nechda. Maman, fille et petit-fils. Eben. Donc quand vous allez dans un cimetière, vous avez l'habitude de le cimetière. Pourquoi vous posez une pierre sur le cimetière? Pour dire, mon cher papa, je suis venu te voir, ne t'inquiète pas, je suis là. Je suis ta continuité. Si Dieu veut, j'aurai des enfants qui vont te continuer. Et la même chose pour maman. Où est-ce qu'on a une chose pareille? Est-ce que les nations du monde, elles ont une Torah comme la nôtre? Or, si j'inverse le mot Eben, je deviens Nazi. Prophète. C'est ça la prophétie. La prophétie, c'est en réalité une science qui sait quelles seront les conséquences de deux degrés qui s'unissent dans l'univers. C'est ça le prophète, c'est pas celui qui va savoir ce qui se passe demain, ça c'est pas de la prophétie, c'est du bidon. C'est une science exacte, divine. De la même manière qu'un scientifique sait exactement que si je mélange tel produit avec tel produit, j'aurai tel autre produit, eh bien un kabbaliste qui est en réalité un nouveau prophète, sait que en faisant telle chose, on aura telle conséquence et le couple de ces deux va engendrer une troisième énergie. Ça c'est Hallel. Tout à l'heure, je vous ai dit que le mot Hallel, vous le traduisez comme louange. D'accord ? Je loue Dieu. Moi, je préfère lâcher. Mais louer, ça ne veut rien dire. Le mot Hallel, d'ailleurs le mot Halleluja que tous les goy disent, ça vient d'hébreu. Halleluja. Louer les deux premières lettres du nom d'Hachem. Halleluja. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement en hébreu ? Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait ce que représente le mot Hallel en hébreu? J'ai fait exprès de ponctuer le lamé, car c'est comme ça qu'il faut le dire. Hallel. Vous savez ce que ça veut dire? Définir. Difficile à savoir. Il faut étudier l'hébreu. Kulpad. Le mot Hallel ne veut pas dire louer, mais définir. Donc, lorsque je dis Hallel, c'est pas que je remercie Dieu parce qu'il a intervenu dans mon histoire, certes, mais c'est pas ça le sens. C'est de pouvoir définir clairement dans mon monde et reconnaître qu'il était dans mon histoire. Donc, je définis quelque chose de concret, une manifestation divine qui est passée par mes actes pour se diffuser dans ce monde. Et c'est pour ça que je peux dire le Hallel, je définis l'action divine qui est passée à travers l'action humaine. Eh bien, le mois de Ia, c'est exactement ce que nous faisons deux fois. Une fois pour l'accès à notre terre et l'érection de notre État. Et la deuxième étape, c'est le jour où nous sommes revenus 19 ans plus tard à Jérusalem. C'est-à-dire les deux choses les plus importantes de l'histoire depuis 2000 ans. Vous avez oublié ça, je crois. Les gens ont oublié que les deux choses les plus importantes de l'histoire depuis 2000 ans, c'est notre retour à la terre et l'État d'Israël qui est monté, et le jour de notre retrouvaille, de nos retrouvailles avec Yerushalayim, Irakodesh. On a oublié ça. Les gens pensent que c'est comme ça. Quand je suis allé avec mon papa, Zichrono Livracha, la première fois en 1976, juste après la guerre à Yerushalayim, c'était Olam Haba. Olam Haba. Papa, où est-ce qu'on va? Tu vas voir. On va dans un endroit qu'on n'a pas vu depuis 2000 ans, mon fils. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était. Comme d'ailleurs personne, on n'a jamais vu. Et cette ambiance est ce qui est resté dans ma chair, dans mon souvenir d'enfant de 8 ans. Je ne peux pas l'oublier. La première fois où j'ai touché ces pierres, on m'a dit ça, c'est juste l'enceinte du Beth Amidash qu'il y avait là depuis le roi Salomon. Mais comment tu peux tenir debout? Tu fonds. Aujourd'hui, on va aux côtés. Prends une photo comme ça. Tu touches la pierre, qui doit fondre. Ça, c'est la Torah des secrets. Torah des secrets, donc, Torah des liens. Torah de ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Torah de la science avec les secrets de la vie. Car il n'y a pas de contradiction. Au contraire, la science vient dévoiler ce que la vie donne. À la différence, c'est que la science, elle va prendre des résultats pour revenir à des causes, alors que la Torah, elle part par les causes pour arriver à des résultats. C'est exactement pareil. C'est juste le chemin à l'envers. C'est tout. Donc, la science, elle vient du Ben pour revenir vers le papa. Am. Et la Torah, elle part du papa pour arriver au Ben. Rabbi Shimon Bar Yochai a décidé donc de quitter ce monde le mois de Iyar. Quel jour? Le 33e jour du Homer. Ça, tout le monde le sait. L'Ag, c'est 33. Mais est-ce que vous savez quelle date c'est dans le mois de Iyar? Ah, ça, pas beaucoup de gens le savent. C'est le 18. Qu'est-ce que c'est 18 en hébreu, vous savez tous? Chai, c'est la vie. Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de sa mort, nous a indiqué un point de vie. Comment? Eh bien, l'Agmara nous dit, vous savez ce qui s'est passé ce jour de l'Ag BaOmer, qui est en réalité la vie du mois de Iyar, Chai BeIyar? Eh bien, les élèves de Rabbi Akiva ont cessé de mourir. Maintenant, vous comprenez pourquoi? C'est-à-dire que, jusqu'à cette date, des élèves mouraient tous les jours, par centaines, par milliers, 24 000. Et ils ont arrêté de mourir d'un coup, le jour de 18 Chai. Pourquoi? Si on arrête de mourir, c'est qu'il y a une correction de la mort. Alors comment je peux corriger la mort? Vous croyez que la mort c'est naturel? D'accord? Vous vous dites tous un jour, bientôt c'est nous. Ça c'est un manque de Emouna. Quand on n'a pas la conscience que Dieu vivant, Elohim Chaim, le Dieu de la vie, la source de la vie, c'est en réalité le résultat final, on a l'impression que tout le monde va mourir. Et effectivement, aujourd'hui tout le monde meurt. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore corrigé la mort qui est arrivée dans le monde après la faute du premier homme et de la première femme. Mais la mort n'était pas prévue au programme au départ. Le jour où tu consommeras d'une manière interdite, tu mourras. Sous-entendu, si tu n'avais pas consommé d'une manière interdite, tu serais resté vivant. Donc, au lieu de consommer l'arbre de la vie, on a consommé l'arbre de la connaissance humaine, c'est-à-dire de l'intellect humain, subjectif, limité, sclérosé. D'ailleurs, on continue de le faire. Quand je vous dis quelque chose qui est de l'ordre de la vie, vous dites, oh, mais si c'est intelligent, ça me rentre bien dans ma cerveau, je dis, oh, c'est logique. Ça, je mange. Mais c'est la même chose, on continue à manger que de la logique. On aime la logique. Même si c'est en réalité limité à ton petit cerveau de rien du tout. Alors que la vie, tu ne sais pas la manger. Tu préfères manger de la logique. Un chat, c'est mieux vivre que toi. Il n'a jamais ouvert un livre pour faire comme ça. Pourquoi? Il mange la vie. Il consomme l'arbre de la vie. Incroyable. Alors pourquoi il meurt lui aussi? Parce que c'est l'homme qui est responsable de l'univers. Et comme l'homme a apporté la mort dans l'univers, c'est l'homme qui devra réparer. Comment je vais réparer la mort? En mangeant de l'arbre de la vie que je n'avais pas mangé au moment où il fallait que je la mange. Que je le mange. Est-ce que vous savez où ça pousse, l'arbre de la vie? Sortez de Jérusalem, à côté de Mostin, un petit peu à droite. Non, pas du tout. L'arbre de la vie, c'est le Zohar, Rabotai. Si vous mangez de cette étude, vous mangez de l'arbre de la vie. Le Harizal a écrit un livre qui s'appelle l'arbre de la vie. Ephraïm, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ouvre ses feuilles et mange. Délecte-toi de cette étude, tu vivras plus et tu pourras un jour abolir la mort. Tout le monde n'y croit pas. On a l'impression que, oh, c'est pas logique, C'est comme traverser la matière. Ça vous paraît impossible. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est trop gros. On est trop gros. On n'est pas assez humble. Vous savez que dans cette matière, si j'avais un appareil qui grossissait ma vision avec une lentille assez forte, je verrais qu'en réalité les molécules sont espacées l'une de l'autre de plusieurs milliers de kilomètres. C'est-à-dire, l'essentiel de ce monde, c'est du vide. Normalement, je devrais passer ma main dans le mur. Vous savez pourquoi on n'arrive pas? Parce qu'on prend trop de place. On n'a pas d'humilité. L'humilité, c'est devenir tellement petit que tu peux traverser les molécules qui sont en réalité très espacées. Et c'est pour ça que Arizal, que Rabbi Shimon Bar Yochai, que le roi Salomon, que David Hamelech pouvait se déplacer de Ra'anan à Tzfat en faisant comme ça. Je suis allé sur le mur. Mais c'est pas des choses de Harry Potter, hein? Ça fait pas longtemps. Et aujourd'hui aussi, nous avons des maîtres de ce niveau-là, seulement ils ne vous le diront pas. Ça vous paraît pas logique, hein? C'est difficile, hein? C'est que les sourires nous disent ça passe pas. Comme ça passe pas ici, ça passe pas. Je peux vous garantir que ça se passe. Ça se passe. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas. Moshe Rabbeinu, pourquoi il est arrivé à cette connaissance? Ve'aish Moshe Anav Me'ot, parce qu'il était le plus humble. Quand tu es humble, tu deviens creux. Qu'est-ce que c'est que l'humilité? C'est ça l'humilité. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil? C'est ça. L'humble, je peux le remplir. L'orgueilleux, tu peux verser, il n'y a rien qui le remplit. Il sait tout. T'as rien à lui apprendre. Ve'aish Moshe Anav Me'od. Moshe est arrivé au sommet de sa connaissance. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ve Moshe lo yada. Et Moshe, il ne savait pas. Quand tu commences à dire je ne sais pas, c'est que tu commences à goûter de l'arbre de la vie. C'est que tu es revenu vers l'arbre de la vie. Rabbi Shimon Bar Yochai a quitté ce monde le jour où en réalité la vie s'installe dans ce monde. Donc le mot Lag Baomer, Lag veut dire dévoilement. Le dévoilement comme une vague, Gal, qui veut dire dévoiler les galotes. Donc une vague dans la plage, à la plage, quand vous allez à la plage, voilà une vague. Ça se dit Gal. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est Gal? C'est un dévoilement. C'est-à-dire que quand tu es en face de la plage et tu vois des vagues venir, c'est jamais la même vague. Chaque vague dévoile un nouveau degré de vie. Non, on ne sait pas lire les vagues. Alors elle vient, elle s'en va. Je dis, bon, je comprends rien, celui-là, je m'en vais. Peut-être que la prochaine, après moi. Et en reculant, elle dit à son copain, c'est pas la peine de s'en aller, il comprend rien à celui-là. Eh bien, l'Adva Homer s'est dévoilé ce qui est caché dans le Homer. Et qu'est-ce qui est caché dans le Homer, qui est tellement grand? Eh bien, c'est ce que je suis en train de vous dire, Rabotai, c'est que ce mois-ci, il a la capacité à dévoiler les tenants et les aboutissants, les liens entre toutes les choses. C'est comme s'il y avait des nœuds qui faisaient des tissages. Vous voyez les traces que vous avez sur ce plafond? Imaginez-vous que ce sont des causes et des correspondances. Eh bien, l'homme qui rentre dans cette étude commence à faire des liens entre toutes les choses de ce monde. C'est extraordinaire, c'est incroyable, ça fait peur. Il commence à voir des degrés, il commence à sentir, à pressentir, à vivre, pas une maladie, un syndrome de Jérusalem. Une réalité de vie qui change, qui transforme l'être et qui le rend plus heureux. Plus optimiste, plus équilibré, plus vivant, plus joyeux. Et dans tous les domaines de la vie, ça va ensemble. Ça, c'est le secret de l'Agba Omer. Je vais vous lire juste un petit passage, je termine avec ça, du Rav Kook, qui correspond au secret de la Torah. Mawalimud Yesodi, quelle est l'étude profonde et de base que nous devons étudier chez le Chokhmat HaEmet de cette fameuse sagesse de la vérité? La Torah de la Kabbalah, on l'appelle la sagesse de la vérité. Emouna. Il répond tout de suite, le Rav Kook. Emouna. Qu'est-ce que c'est Emouna? La foi? Non. Arrêtez avec les traductions, dis donc. Qu'est-ce que c'est Emouna? Quelqu'un d'entre vous sait le véritable sens du mot Emouna? Non. Hein? Emouna, les Amen. Mazé les Amen en hébreu? Certifié. Ne'eman. Ne'eman la makor, certifié conforme à la source. Ne'eman. Donc les Amen, c'est certifié. Donc qu'est-ce que c'est qu'en réalité la Emouna? La certification de qui? De celui en qui tu as Emouna. En qui tu as le plus de Emouna? Yassem, très bonne réponse. En moi-même. Car tu vis ta vie. J'ai pas besoin que tu me prouves maintenant que tu vis. C'est la plus grande preuve que tu es dans la Emouna. Tu vis. En quoi c'est le plus difficile d'avoir la Emouna? Prends un cadeau, je sais pas beaucoup. Parce que avoir la Emouna ou un cadeau de Bokou, c'est le vivre. Est-ce que vous vivez Dieu comme vous vous vivez vous-même? Alvaï. C'est le début de mon cours. Je vis de son être. Est-ce que je vis Dieu? Parce que je suis tellement persuadé que j'ai ma petite vie à moi-même, je suis complètement déconnecté. C'est pas ça la vie. Le Rav nous dit, la véritable étude de la Kabbalah, c'est de commencer à vivre l'éternité. Moralité, si je vis l'éternité à son plein régime, je ne peux jamais mourir. Je ne devrais jamais mourir. Donc toute forme de mort, à cause de cette descente, de cette chute de l'humanité. Et donc ça s'appelle profaner le nom de Dieu. Pourquoi ça s'appelle profaner le nom de Dieu? Mourir, c'est profaner le nom de Dieu. Pourquoi? Hein? Parce que Dieu, c'est la vie. Donc, qui gagne? La mort. Donc, la mort a gagné la vie. Chas v'shalom. Il n'y a pas plus grande profanation du nom de Dieu. Vous comprenez? C'est tellement logique. Et donc, normalement, le jour où la mort disparaîtra de notre vie, qu'on reviendra à la vie, eh bien, ça sera du kiddush Hashem. En attendant, il y a du chiloul Hashem. Quel est l'inverse de chiloul Hashem? Kiddush Hashem. Donc, qu'est-ce que je dois faire quand il y a un mort pour compléter le vide? Un kaddish. Le kaddish, c'est du kiddush Hashem. Je remplis le vide. C'est-à-dire, Dieu a été profané, donc je suis obligé de dire un kaddish pour sanctifier là où il y a du vide parce que j'ai honte. Incroyable, c'est incroyable le judaïsme, Rabotai, c'est énorme. Et le Rav nous dit, Ve'adorazé, et notre génération, Allakul kol karte machalat akfira, qui est tellement malade de kfira, mais c'est kfira, qu'on fait de, du négationnisme, je dirais. Hein? Vous n'avez pas conscience de tout ce qu'il y a. Donc, c'est comme si c'était en réalité un déni. La maladie du déni. Il dit que c'est une machala. Haïm en la mouyestok no marche les choua. Toi, nous suchim la arbot betora ka emouna. Quelle est sa guérison, dit le Rav? L'étude de la emouna. C'est-à-dire étudier comment certifier Dieu. C'est la véritable étude. La véritable étude, c'est étudier comment certifier l'éternel dans toutes mes actions. C'est-à-dire, je dois être, ici, dans ce monde, un conducteur de sa vie. À tel point que je n'ai rien d'autre que ce qu'il me donne et je vis en réalité par la vie qu'il fait passer par moi. Or, si je certifie, comment on dit certifie en hébreu? On a dit Ne'eman. Mais aussi, mais ou char. D'accord? Ishour. Qu'est-ce que c'est un ishour? Une permission, autorité, autorisation. Ishour. Donc si j'ai un ishour, je suis mais ou char. Je deviens heureux. Vous cherchez tous le bonheur, d'accord? Plus vous allez certifier Dieu dans votre vie, plus le bonheur vous remplira. Le bonheur, c'est pas de faire des petits kiffs à droite, à gauche, machin. Tu te lèves le matin avec une gueule enfarinée, tu te dis, ah, c'était super. Un véritable homme qui est Meouchar de Michemé Asher est aboré. Celui qui certifie le divin devient lui-même heureux. Et donc il faut étudier cette étude. The Coltman. Alors là, c'est le coup de grâce. Shea Orthodoxia. Omere, le Rafouk. Hein? Tout le temps où l'orthodoxie, hein? La religion, malheureusement, Omer et Be'akshanout qui est têtu dans sa tête et qui dit Dafkalo, on veut pas. Le Rak Gmara de Postim, on veut pas étudier le Zohar, on veut étudier que la Gmara et la Halakha. Levadam, lo Agata, lo Moussar, lo Kabbalah, Rafouk, hein. Khalekbet, Igrot, Igeret. Rafouk, Igeret, Resh, Lametbet, 232. Allez le voir. Tout le temps où on n'a pas fini de ne pas comprendre que notre génération a besoin de cette étude, le Chassidus, Anochi achzik milchamti neged kol hakamim alay. Moi, le Rav Kook, je veux me battre contre tout cela. Ki Torah shekazot medandelet atma, parce que cette Torah seulement, seule, affaiblit l'homme, parce qu'aujourd'hui nous sommes passés à une autre vitesse et vous êtes encore dans un retard, comme si nous étions encore dans un ancien exil. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit au début de mon chiou, que chaque exil doit libérer la Torah en question qui correspond à la génération. Donc ceux qui n'étudient pas aujourd'hui le Zohar sont en retard d'un exil, c'est-à-dire de 2000 ans. Mibli la kafat et tamachaima amitim. Pourquoi? Il y a un cachet de l'élixir de vie et ils ne veulent pas le voir. Et ta Torah bebniniuta, ils ne veulent pas goûter la profondeur de la Torah. Himit al mal'ab et kesef. Et donc il y a une colère de cette Torah chas v'shalom. Vekocha holech de kachel. Et malheureusement, ils affaiblissent le dévoilement, car tout le dévoilement messianique vient de cela. Et c'est avec ça que je vais terminer. Regardez ce que dit le Zohar. Je vais vous lire une partie du Zohar, puisque nous avons parlé que du Zohar. Chelek Gimel, troisième livre, 122. Je termine, c'est vraiment la dernière phrase. Ou Begin. Ah, Menachem Begin. Ou Begin, en araméen, veut dire « et parce que ». C'est à qui dit Israël et Mitam, que le peuple d'Israël, je le sais, Rabbi Shimon Bar Yochai écrit ça, je sais que les enfants d'Israël à la fin des temps vont goûter les Mitam, mais il en a déchaillé de l'arbre de la vie. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vous ai menti? Et Ihi Sefer HaZohar, c'est ce livre-là que je vous laisse, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, je sais que vous allez goûter à la fin. Yiskun Velin Galuta. Ils sortiront de leur exil avec miséricorde, avec équilibre. Ça veut dire que la clé de toute la Géoula, c'est cette étude-là. Verachamim, pour que ce soit avec douceur et pas avec difficulté. Car Géoula, il y a. Seulement, comment ça va passer? Est-ce que ça va passer par des turbulences que tu ne pourras même plus rester parce que tu ne pourras plus rester en vie pour ne pas voir cette souffrance? Ou bien avec douceur, avec miséricorde, avec douceur, avec enveloppement de l'éternel de notre rédemption. Rabotai, c'est bien la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le monde va allumer des veilleuses, mais ça ne sert pas à grand chose d'allumer juste des veilleuses, c'est bien continuer d'allumer des veilleuses. Mais la véritable veilleuse qu'il faut allumer, c'est dans nos cœurs, par l'étude réelle, de ce que Rabbi Shimon nous a laissé. Au Darabat.